des philosophes publics.
Alors bleu, c'est quoi ? Religion.
Là, c'est on a retourné le problème
faire
en fait.
À l'extérieur de la classe, ce qu'on fait à l'intérieur de la classe, c'est-à-dire aider à penser et penser avec les autres.
Bon, alors non, on a le droit, on a le droit de retourner.
C'est
une
parole, c'est ça.
C'est sûr.
Rouge, société.
Poser des questions, mais c'est peut-être de créer du désir.
Parce que les questions, on se les pose ensemble, on se les pose de mieux.
C'est compliqué aujourd'hui de trouver la perspective commune.
Le collectif Les Philosophes Publics a pris naissance au sein d'un groupe d'amis, enseignants de philosophie, attentifs à la vie commune.
Il est né d'un sentiment, sans aucun doute partagé, d'être confronté à des événements révélant une crise grave de la société.
Crise des représentations,
des institutions
et des rapports au monde. Ce collectif a décidé d'aller partout où le dialogue est possible. D'écouter tous ceux qui ont à dire et à inventer.
De discuter et concevoir, de porter voix et témoigner. De tout ce qui se dit et fait
pour une société plus joyeuse,
plus éclairée,
plus solidaire.
Philosophe public.
Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec vous pour parler de la question de la liberté. Donc il y a Ronald.
Bonjour.
Céline.
Bonjour.
Monique.
Bonjour.
Et moi, Louisa. Donc on va faire une série d'émissions. La première émission, ça serait un peu pour déblayer le terrain de la notion de liberté. Quels sont les concepts qu'on emploie quand on veut parler de liberté, une distinction un petit peu conceptuelle et une perspective rapidement, globalement historique, hein, pour voir que l'idée de liberté n'a pas toujours pris la même valeur selon les connotations, selon les contextes. Et d'ailleurs, on pourrait commencer par la phrase de Paul Valéry qui dit que la liberté est un de ces mots qui ont plus de valeur qu'ils n'ont de sens et qui chantent plus qu'ils ne parlent. Et en effet, la liberté, c'est un terme que tout le monde emploie d'une manière très positive, que tout le monde voit comme une valeur, mais on a beaucoup de mal à définir en quoi cela consiste exactement. Voilà. Donc on va essayer de déblayer le terrain dans une première émission pour, dans une deuxième émission, poser une question plus problématisante sur le libre arbitre, puisque c'est ce qu'on entend généralement par liberté. Est-ce que c'est la bonne définition de la liberté ? Est-ce qu'être libre, c'est avoir un libre arbitre ? Donc, d'abord, déblayage du terrain.
Ce que veut dire Valérie, c'est qu'effectivement, le mot liberté chante au sens où il fait plaisir à entendre, et à juste titre. C'est évidemment une conquête, la liberté, un droit, un acquis qui s'est fait au fur et à mesure de l'histoire. Mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'en fait, il recouvre une pluralité de champs, hein, plusieurs dimensions, juridiques, politiques, économiques, existentielles. Et la philosophie tente d'articuler ces différents sens.
Oui, puis le mot de Valérie a aussi un sens relatif au fait que ce mot a été utilisé dans des contextes politiques, il a été réclamé, revendiqué, mais qu'il est difficile à faire correspondre à une véritable démonstration philosophique. Donc l'idée qu'il ne parle pas signifie aussi que démontrer la liberté est plus difficile que la faire exister sur un plan pratique. Et donc ce décalage entre la théorie et la pratique va beaucoup nous intéresser.
Kant le dit très bien, dit si on prouve la liberté, d'une certaine façon on la détermine. C'est-à-dire que si on donne des causes ou des raisons à ce que c'est qu'être libre, on lui donne finalement un rapport cause à effet que justement la liberté tente de remettre en question. Et même si Kant est un penseur de la liberté, on l'identifie souvent à cette notion, il montre bien que finalement il n'y a pas de connaissance au sens scientifique de la liberté, mais ce qu'il appelle Kant, mais c'est important qu'il y ait deux mots différents, il dit qu'il y a un savoir finalement de la liberté, c'est-à-dire une expérience.
Une expérience de la liberté, oui, je voulais tout à fait prolonger cette idée-là, c'est-à-dire si la liberté chante, c'est aussi parce qu'il y a un sentiment de liberté, il y a une expérience de la liberté, et cette expérience, elle est donnée à tout à chacun, et dès le plus jeune âge, quand la cloche sonne à l'école et qu'on est libéré de la contrainte de l'école, du cours, on se sent libre. Et donc, il y a une il y aurait peut-être une première liberté qui est liée à l'usage que nous avons de notre corps, qui est liée à l'absence de contraintes, mais qui se joue dans l'habitude. C'est-à-dire qu'il n'est pas vrai qu'avoir le sentiment de liberté, comment dire, soit être libre au sens où on pourrait absolument donc faire des choix, ou serait être libre au sens où on pourrait absolument donc décider de son futur, de son avenir, de la détermination de son existence, mais plutôt être libre au sens où on peut avoir ses usages habituels, c'est-à-dire faire du vélo quand on a l'habitude de faire du vélo, regarder la télé quand on a l'habitude de regarder la télé, faire les sorties qu'on a l'habitude d'avoir au moment où on a l'habitude de les avoir. Et on se sent privé de cette liberté quand ce n'est simplement plus possible.
Ça nous permet quand même de revenir sur les première signification de ce mot. On parle de liberté de faire ce que l'on entend au moment où on le veut, mais c'est la capacité de l'homme libre par opposition à celui qui ne l'a pas, cette liberté, et en particulier dans l'Antiquité, l'esclave. Et l'idée qu'on est libre ou on ne l'est pas, ça prend des formes extrêmement précises dans l'Antiquité, lorsque, par exemple, l'ennemi vaincu se voit assommé de choisir entre la liberté et l'esclavage. D'ailleurs, s'il s'appelle serf, c'est parce qu'on a conservé sa vie et qu'il a renoncé à la liberté pour poursuivre son existence, quitte à perdre cette capacité à agir librement. Ça nous permet peut-être, Louisa, de commencer à mettre un peu en perspective le concept.
Disons que historiquement, par exemple, la notion de libre arbitre, qui pour nous est tellement évidente et qu'on rattache forcément, naturellement, à la notion de liberté, est quelque chose qui apparaît assez tardivement en réalité et qui a toute une histoire. Et peut-être que justement, comme disait Ronald, la notion de liberté dans l'Antiquité était rattachée à un champ politique et au fait d'avoir le droit et la capacité à choisir ses propres lois. Donc, à se déterminer soi-même et à ne pas être dépendant du choix des autres. Et que peut-être que cette idée apparaît d'abord dans un débat ou dans une contradiction vis-à-vis de la notion de fatalité ou dans le rapport au Dieu. Puisque la liberté, c'est un peu une revendication d'un champ proprement humain, d'une pratique proprement humaine, qui ne soit pas prédéterminée par le fatum, par le destin des dieux. Ça peut être compris d'abord par rapport à cette notion-là, et non pas par rapport à la logique du déterminisme. Je veux dire par là que peut-être que, puisqu'on est dans le déblayage, qu'il faut peut-être distinguer la liberté comme opposition à la fatalité, de la liberté comme opposition au déterminisme. Rapidement, on pourrait dire la fatalité, c'est l'idée d'un destin qui est déjà écrit, qui est déjà tracé. Le déterminisme suppose au contraire l'idée que nous sommes soumis à des lois causales. La différence, on pourrait dire, c'est que la fatalité, on n'y peut vraiment rien, tandis que le déterminisme, si on comprend le déterminisme, il y a peut-être la possibilité de le modifier et de le changer. Dans les deux cas, je n'agis pas de manière complètement volontaire, c'est-à-dire je ne choisis pas complètement, ni dans un cas ni dans l'autre, mais la différence c'est que quand il y a un destin, celui-ci, même si je le comprends, je ne peux pas le changer.
Peut-être juste un tout petit éclairage que je trouve très utile dans la philosophie d'Aristote, où il dit par exemple, c'est sûr d'un point de vue logique, donc du discours, que demain, ou bien on partira en bataille navale, ou bien on ne partira pas. Mais la certitude ou la logique absolue porte seulement sur l'alternative. Ce qui est ouvert pour la communauté à ce moment-là, c'est faut-il partir en guerre, ou à l'inverse, ne faut-il pas partir en guerre ? Et Aristote montre bien que c'est assez finalement facile de faire passer le champ du discours au niveau du champ de l'être lui-même. Si on se rend compte que l'alternative, la nécessité ne porte que sur ou bien, le choix arrive. Mais ce que montre aussi Aristote, et c'est intéressant, c'est que ce choix-là, au fond, nous ordonne en tant qu'être politique, en tant que communauté politique, et de réfléchir sur le sens ou le non-sens d'entreprendre cette guerre. Même si, effectivement, chez les Grecs, il y a un présupposé, mais qui est très beau, mais qui doit être questionné et qui sera questionné, c'est est-ce que ce soucier du politique relève d'un choix ou est-ce que c'est simplement notre nature ? Pour Aristote, c'est notre nature. Nous sommes des animaux politiques et donc nous devons décider ensemble sur ce que doit faire la cité.
Alors, juste pour clarifier les choses, si j'ai bien compris, Louisa, quand tu évoquais la différence entre la fatalité et le déterminisme, tu voulais parler un peu de l'homme tragique grec, par exemple, Édipe. Lui, il est soumis à une fatalité, à quelque chose qui est en fait de l'ordre du destin. Et toute sa liberté a consisté précisément à tenter de déjouer ce destin. Et le génie de la tragédie, c'est de montrer que, en agissant hypothétiquement comme un homme libre, c'est-à-dire en tentant de déjouer le destin, en fait, il aide le destin à se réaliser. Donc là, c'est une fatalité, au sens où on ne peut pas déjouer cette fatalité. En revanche, s'il y avait déterminisme, c'est-à-dire si tu dis que si sa vie était déterminée seulement par des lois de la nature, il aurait pu les comprendre et agir sur ces lois pour prendre des initiatives et devenir plus libre.
Ou de la société.
Ou des lois de la société.
Ou de l'aide de la société, voilà. D'accord. Alors, l'homme d'Aristote, celui qui va être considéré comme l'animal politique, est du deuxième genre, donc. Il est capable, donc, de dire que la nature l'a doté d'une capacité de prendre des initiatives par rapport à un déterminisme.
Oui, c'est ça. Ce qui est intéressant, peut-être, chez Aristote, mais on y reviendra peut-être plus tard, c'est que, oui, il peut inscrire quelque chose de l'ordre de l'humain dans ce cosmos, mais cette inscription qui pourrait s'apparenter à un acte libre, chez Aristote, ne peut se faire que dans une communauté qui réfléchit ensemble sur qu'est-ce qu'on a à faire finalement en termes de construction.
Peut-être il y a un concept qu'on peut introduire là, puisqu'on est en train de déblayer un peu le terrain, c'est le concept de contingence. La contingence, c'est le fait de pouvoir faire ou ne pas faire quelque chose, c'est-à-dire c'est le possible, hein, c'est l'introduction du possible. Or, justement, s'il y a liberté, c'est qu'il y a du possible qui reste ouvert.
Oui, donc effectivement, si on essaye de tenir ces deux perspectives dans un même point de vue, ça veut dire qu'il y aurait un monde dans lequel les choses sont réglées par une fatalité, c'est un peu le monde des dieux, en tout cas le monde que les dieux proposent aux hommes, mais dans lequel on tente d'inscrire une action libre si on arrive à trouver un lieu pour inscrire cette action, c'est-à-dire s'il y a un jeu au sens de la mécanique, hein, c'est-à-dire où les choses ne sont pas totalement déterminées d'avance et qu'on peut inscrire quelque chose de l'ordre du choix ou de la décision collective, tu dis Céline, dans ce système qui serait réglé d'avance. Donc peut-être que l'histoire a fonctionné un peu dans ce sens, a laissé apparaître de plus en plus de jeux, hein, dans le monde humain, dans lequel, finalement, l'action individuelle ou collective peut inscrire quelque chose de libre.
Oui, et c'est là où, c'est difficile de comprendre la liberté sans faire jouer l'histoire. Il y a une histoire de la liberté. Et Hegel, à un moment, dit, voilà, au tout départ, on aurait pu croire qu'il n'y a qu'un seul homme qui est libre, c'est celui qui commande tous les autres, parce que peut-être il est plus intelligent, plus savant. Et ce que montre Hegel, c'est qu'on est dans le contresens. On ne peut pas penser à un monde où un seul est libre. Ensuite, quelques-uns ont été libres, ce sont les citoyens grecs, hein, qui se différenciait des esclaves. Et pareil, Hegel dit, il est impossible de penser une liberté. Enfin, le monde n'est pas libre si seulement certains sont libres. Donc ce que veut dire Hegel, c'est que la liberté, au fond, dans son mouvement historique, impose qu'il n'y a qu'un seul sens possible de la liberté, c'est que tous soient libres. En termes aussi bien, donc il y a quelque chose de l'ordre du quantitatif, évidemment, mais aussi du qualitatif. Finalement, quand je suis libre, j'expérimente que ma liberté ne peut commencer au sens effectif historique du terme que si tous les autres sont libres. Et là, on n'en a pas fini, contrairement à ce que disent sans doute on n'en a pas fini avec cette exigence de la liberté.
Donc tu veux dire que la liberté de chacun dépend de celle de tous les autres?
Exactement. Sinon, on est dans le contresens aussi conceptuel. Si j'imagine qu'un seul est libre, ou que seuls certains sont libres, et que d'autres sont ce qui peut, comme l'esclave, rendre possible ma liberté, je ne suis pas libre.
Alors moi, dans ce que vous dites, je n'arrive pas à saisir si vous parlez de liberté de droit ou de liberté de fait.
Eh oui.
C'est-à-dire que je n'arrive pas à comprendre s'il s'agit donc du pouvoir de faire quelque chose ou bien s'il s'agit donc du droit de faire quelque chose. C'est libre en quel sens? C'est-à-dire cette liberté donc de chacun qui présuppose l'égalité des libertés ou la liberté de tous, donc c'est une liberté de droit ou une liberté de fait?
Allez.
Je crois que justement, puisque tu distingues la liberté de droit et de la liberté de fait, on peut aussi jouer, puisqu'on parlait de contingence et de possible tout à l'heure, on peut jouer sur le double sens du mot puissance. Hein. Donc quand une chose est en puissance, c'est qu'elle a la possibilité de s'accomplir. Donc il y a de la contingence, puisqu'il y a du possible, mais il y a aussi l'idée de puissance comme activité et comme réalisation de fait. Et oui. Donc justement, la liberté de droit, c'est une liberté en puissance, et la liberté de fait, c'est peut-être l'accomplissement d'une puissance.
Et puis, comme... C'était à partir de la distinction de Hegel que cette différence te semble indispensable, Monique, entre le fait et le droit. Il faut quand même rappeler que c'est exactement la critique qu'avait émise Marx à l'égard de la définition qu'avait donnée Hegel de la liberté en tant que réalisation du droit. Les droits énoncés sont formels, donc abstraits, mais ils ne sont effectifs, donc pratiqués, et puis ouverts à chacun, que lorsqu'ils sont effectivement attribués à ces personnes et que ces libertés sont des libertés de fait. Donc, historiquement, encore une fois, il ne suffit pas d'atteindre à une conception de la liberté comme droit universel acquis, il faut encore la traduire dans la pratique. Et c'est cette pratique qui, finalement, sera difficile à décrire.
Ou même, on peut se dire que la liberté, en fait, c'est une libération permanente. Et comme c'est une activité, elle est sans cesse menacée. Mais effectivement, ce n'est pas parce que la liberté, dans les faits, est menacée, voire même inexistante, qu'elle n'existe pas en droit. En tout cas, il me semble, à partir du moment où on pense, effectivement... que l'humanité apparaît dans cette possibilité d'un arrachement au seul ordre de la nature et qu'en ce sens-là, elle est inhérente ou co-originaire de l'homme et donc en droit. Hein, c'est pas simplement en droit du point de vue juridique, c'est en droit comme principe. C'est ce que dit peut-être Rousseau au début, l'homme est né libre et pourtant partout il est dans les fers, enfin...
Oui, mais si je posais cette question, c'est aussi parce qu'on avait une perspective, enfin en tout cas annoncer une perspective un petit peu historique, et il me semble que la liberté donc, de droit pour les anciens, ça n'a pas grand-chose à voir avec la liberté de droit pour les modernes, c'est-à-dire que précisément pour les modernes, le droit se rattache au sujet, ou à une subjectivité, ou à... voilà. Alors que pour les anciens, le droit se rattache à la loi, c'est-à-dire que j'ai droit, ça signifie donc la loi m'autorise à, et donc elle me fait... elle me donne la possibilité d'être maître plutôt qu'esclave,
mais
par exemple.
Tu as tellement raison que je pense que l'articulation entre le fait et le droit, sans jouer sur les mots, vient du fait que les lois doivent être proférées et écrites. C'est-à-dire qu'une liberté qui est accordée ou constatée sur le terrain pratique n'est rien si elle n'est pas proclamée et reconnue officiellement. Et autrement dit, il faut ouvrir ses droits pour que la liberté soit à la fois théorique et pratique. Donc on ne peut pas sacrifier un aspect à l'autre. Oui. Je pense qu'il n'y a pas de liberté sans effectivité, sans pratique, mais que l'aspect théorique ou la possibilité même métaphysique d'être libre est essentiellement lié aussi à cette possibilité.
C'est peut-être ce que dit Valérie au départ. Enfin, un des sens qu'on peut trouver dans cette phrase, c'est que si la liberté n'est plus qu'un droit formel, alors elle chante, mais elle ne dit rien, elle ne parle pas au sujet que nous sommes.
Je crois aussi que par rapport à ce que tu disais, Céline, du fait que le rapport entre l'individu et la collectivité, je pense qu'il faut, le penser, et que quelque part, à un moment donné, la notion de liberté, c'est individualisée, enfin je ne sais pas comment dire, elle s'est centrée sur le côté individuel en enlevant la connotation collective. Je ne sais pas si on peut penser historiquement ce centrage sur l'individu. Sans doute, on y reviendra, qui s'est lié à l'émergence de la notion de sujet au XVIIe siècle, mais déjà on peut juste dire quelque chose, c'est qu'à un moment donné, la liberté a pris le sens du libre arbitre comme étant la possibilité qu'a l'homme de commettre le mal. Et que je pense qu'à partir de ce moment-là, la notion de liberté a perdu son sens plus politique et plus effectif pour se centrer sur la morale et sur la responsabilité individuelle. Et peut-être, voilà, juste, on peut le situer à l'idée de Saint-Augustin, hein, qui montre que ce n'est pas Dieu qui est responsable du mal sur la terre, mais c'est les hommes du fait qu'ils ont un libre arbitre et que donc c'est eux qui choisissent de faire le mal. Et je pense que à partir du moment où la liberté a été connotée par rapport à l'idée de mal, de commettre le mal, il y a eu un infléchissement dont on est encore les héritiers et dont on subit un peu les conséquences, me semble-t-il.
Nous reprendrons de toute façon ce questionnement autour du libre arbitre. On espère avoir éclairé ou en tout cas, posé des questions qui demeurent aujourd'hui puisque sur la liberté.
Notre ambition était simplement de montrer dans quel univers s'inscrivait le problème de la liberté, à quel type de réalité elle renvoyait. Et puis, évidemment, il va falloir maintenant préciser quel concept et quel nouveau problème elle peut ouvrir, en particulier sur le concept de libre arbitre qui a semblé, précisément, à un moment donné, incarner presque la liberté à 100%, comme si elle se résumait à un pouvoir subjectif, à quelque chose qui était de l'ordre de la possibilité pour l'individu d'effectuer des choix, et c'est cette capacité qui sera interrogée dans une prochaine émission.
À très bientôt donc, poursuivre.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Les philosophes publics.
Là c'est, on a retourné le problème en fait, en effet.
Là, c'est-à-dire aider à penser et penser avec les autres.
Mais c'est quoi ce faut-il là? Est-ce que...
C'est circuler une parole,
c'est ça.
C'est sûr.
Vous posez des questions, mais c'est peut-être de créer du désir.
Parce que les questions, on se les pose ensemble, on se les pose au mieux.
C'est compliqué aujourd'hui de trouver la perspective commune.
Le collectif Les Philosophes Publics a pris naissance au sein d'un groupe d'amis, enseignants de philosophie, attentifs à la vie commune.
Ce collectif a décidé d'aller partout
où le dialogue est possible. D'écouter tous ceux qui ont à dire et à inventer.
De discuter et concevoir, de porter voix et témoigner de tout ce qui se dit et fait
pour une société plus joyeuse,
plus éclairée,
plus solidaire.
Philosophie publique.
Vous pouvez nous retrouver sur Facebook
et sur le site de Radio Grenouille.